Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Aujourd'hui, Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner donc au cours de cette heure. Au programme, nous parlerons de sport, nous parlerons d'économie comme chaque jeudi et nous poserons la question, était-ce bien raisonnable d'avoir des conférences de presse sur le Covid-19 tous les jours? Élément de réponse dans cette émission. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, donc pour ce 21 octobre. Autre nouveau pic d'infection au Covid dans le Victoria, alors que l'État se prépare à lever les restrictions. Ce sera à partir de ce soir. Un plaidoyer de culpabilité pour le massacre par arme à feu le plus dangereux, le plus meurtrier aux États-Unis dans un lycée. On verra ça dans ce journal. Et direction la Russie également, l'Union européenne qui décerne un prix des droits de l'homme à l'opposant russe Alexei Navalny. Je viens de vous le dire en titre, un nouveau pic de contamination dans le Victoria avec 2232 nouveaux cas de Covid-19 recensés aujourd'hui, 12 nouveaux décès également. Le sixième confinement de la ville se terminera ce soir à 23h59, 11 semaines après avoir débuté, c'était début août. Cela signifie qu'à partir de demain, les Melbourniens peuvent avoir des visiteurs chez eux, quitter leur maison pour n'importe quelle raison, à n'importe quelle heure et voyager librement à travers la ville avec d'autres libertés qui sont également ouvertes. Le Victoria et la Tasmanie donc, ont officiellement dépassé le seuil de la double dose, 70%, alors que l'ACT, donc le territoire de Canberra, assouplira également davantage de restrictions contre le Covid à partir de ce soir, après avoir franchi pour eux le cap des 80%. On écoute le point avec le Premier ministre, Scott Morrison.
Well, I can officially confirm, just got the figures. Victoria has reached 70.51% vaccination rate, double dose, right across the state, and under the national plan that means they can now move into phase B. They can start taking the steps, as you say, at 11:59 tonight. The longest road has been journeyed in Victoria, and that long road starts to open up tonight.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 372 nouvelles infections au Covid et un nouveau décès. Il s'agit d'une légère augmentation des nouvelles infections 11 jours après la fin du confinement à Sydney. Cela survient alors que le gouvernement de l'État annonce qu'il investira 96 millions de dollars dans un programme pilote de financement de laboratoires pour développer la technologie d'ARN et d'ARN messager du type de ceux qu'on peut trouver dans certains des vaccins donc contre le Covid. Dominique Perrottet, le premier de l'État, dit que le plan pilote sera déployé en partenariat avec le secteur universitaire. On l'écoute.
We believe that New South Wales can be world leading in this space, but we can't do it alone, and we need to learn from the best, partner with the best, and I really think that the partnership that we've had with the university sector during the challenges of the pandemic has grown important trust, but importantly, it provides opportunity and prosperity for our state going forward.
Donc Dominique Perrottet, le premier de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Un nouveau cas de Covid sur la Gold Coast a mis les autorités sanitaires du Queensland en alerte. L'homme non vacciné était dans la communauté pendant près de 10 jours alors qu'il était contagieux. Janet Young, la médecin en chef donc de l'État, affirme que l'homme est un chauffeur Uber âgé d'une trentaine d'années qui vit dans un complexe d'appartements de vacances vers Broad Beach. On l'écoute.
And we understand that he was in Melbourne on the 10th of October. We're getting all of that clarified at the moment, but that's our understanding. He then came back into Queensland. He is so sick. This is a man in his 30s. He is so sick that we're having difficulties talking to him and getting information from him.
Voilà, donc Janet Young pour le Queensland, c'est une affaire à suivre dans les quelques prochains bulletins sur notre antenne. 13h05, le Royaume-Uni s'attend à une augmentation du nombre de cas de coronavirus à plus de 100 000 par jour. Cela survient après bien des avertissements des hauts responsables de la santé dans le pays, selon lesquels le système de santé britannique risque d'être totalement submergé, à moins que davantage de mesures soient introduites pour ralentir la propagation du Covid-19 dans le pays. Mais le secrétaire britannique à la santé, Sajid Javid, a déclaré que le nombre de décès reste heureusement bas, à 100 par jour, et ce qui, en ce qui concerne la pression du système de santé, elle est énorme, mais elle n'est pas insoutenable, c'est ce qu'il dit. Et M. Javid donc, a exclu pour l'instant la réintroduction de mesures telles que le port du masque obligatoire ou encore la mise en œuvre de passeports vaccinaux. On l'écoute.
So we must all remember that this virus will be with us for the long term. And that it remains a threat to our loved ones, and a threat to the progress that we've made in getting our nation closer to normal life. We're looking closely at the data, and we won't be implementing our Plan B of contingency measures at this point. But we'll be staying vigilant, preparing for all eventualities.
Voilà donc pour la Grande-Bretagne. Autre endroit, autre approche, autre ambiance. Israël qui est en train de surmonter une quatrième vague de coronavirus sans avoir eu à prendre de recours à un nouveau confinement, et ce grâce à une vaccination efficace. Sami Boulefika.
En Israël, la situation épidémique est en nette amélioration. Et pourtant, l'été dernier, les autorités sanitaires redoutent le pire. Bien qu'une très large partie de la population soit vaccinée contre le Covid-19, la propagation du variant Delta explose et inquiète. Mais malgré les risques sanitaires, le nouveau gouvernement israélien promet de ne pas paralyser le pays avec un nouveau confinement qui mettrait en péril l'économie. Une stratégie est mise en place, triple vaccination et dépistage sont déployés à grande échelle. D'abord destinée aux plus de 60 ans, la troisième dose est progressivement généralisée. Finalement, tous les citoyens et les résidents étrangers âgés de plus de 12 ans sont invités à recevoir un rappel. Aujourd'hui, 40% des habitants d'Israël ont reçu 3 doses de vaccin. Juste avant la rentrée des classes, en septembre, les autorités israéliennes ont également lancé une campagne de dépistage sérologique massive. Toujours en vigueur, ces autotests s'adressent aux 2 millions de jeunes âgés de 3 à 11 ans et donc non éligibles au vaccin. Selon le ministère de la Santé, le pays enregistre désormais une baisse des cas de contamination au coronavirus.
Et c'était Sami Bouhalifa. Donc pour RFI, 13h07, le président brésilien Jair Bolsonaro a rejeté les conclusions d'un rapport explosif du Sénat brésilien qui le pointe du doigt pour la mort des concitoyens pendant la pandémie du coronavirus. Le rapport recommande même la mise en examen du président, notamment pour des crimes contre l'humanité, pour sa gestion à la réponse du pays donc contre le virus. Les analystes disent que le rapport est beaucoup moins susceptible d'avoir des répercussions juridique pour le président, mais pourrait clairement et nettement entraver sa réélection dans un an. Mais pour le président Bolsonaro, l'enquête est juste politiquement motivée.
How good would it be if the committee was doing something productive for our country? They took time from our Ministry of Health, public employees, humble people, businessmen. They produced nothing besides hatred and rancor.
13h08, aux États-Unis, Nicolas Cruz a plaidé coupable du meurtre de 17 personnes lors d'un massacre dans un lycée, le lycée de Parkland en Floride. C'était en 2018. La fusillade de masse donc au lycée Marjory Stoneman Douglas avait été ou était la plus meurtrière jamais commise dans un lycée américain. Le tribunal a appris qu'à l'époque, Cruz était un étudiant de 19 ans. Il avait été expulsé de l'école et il avait des antécédents de problèmes de santé mentale et de comportement qui avaient été décelés. Aujourd'hui, âgé de 23 ans, Cruz a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre et a fait une déclaration devant la salle d'audience. On l'écoute.
I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I would do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you and I do not care if you do not believe me. And I love you and I know you don't believe me, but I have to live with this every day. And brings me nightmares and I can't live with myself sometimes.
L'opposant russe Alexei Navalny a reçu le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est un prix décerné par le Parlement européen pour la défense des droits de l'homme, alors que l'opposant russe est encore et toujours emprisonné dans son pays. On écoute Anna-Coline Lebedev, elle est maîtresse de conférence à l'université de Paris-Nanterre.
Je pense que c'est un geste symbolique hein, et le Parlement européen est généralement très sensible à ce qui se passe à sa frontière orientale. Un geste symbolique fort pour marquer un attachement à la liberté d'opinion en Russie, au-delà de la figure d'Alexei Navalny. Je pense qu'il représente aujourd'hui, au lieu des Européens, l'opposition russe. Dans le cas de Navalny spécifiquement, les yeux sont quand même braqués sur lui depuis la tentative d'empoisonnement à laquelle il a survécu. Il est devenu une personnalité reconnaissable, une personnalité qu'on n'oublie pas sur la scène internationale. Oui, ce prix est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire. Je pense que dans ce cas d'espèce, pour Navalny, le combat sera ailleurs. La question de la survie ou non de Navalny en prison, la question de sa sortie éventuelle de prison à la fin de sa sentence, qui n'est pas du tout évidente, parce que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on cherche à le faire rester en prison aussi longtemps que le pouvoir est en place, eh bien, ça dépendra beaucoup, à mon sens, beaucoup plus de dynamique interne à la société russe que de pression internationale.
Donc Anna-Coline Lebedev donc de l'Université de Paris-Nanterre. Un attentat à la bombe a fait au moins 14 morts hier à Damas, la capitale de la Syrie. Alors même si l'intensité des combats diminue, la guerre civile n'a pas fini dans le pays et le retour des Syriens exilés semble très compliqué. C'est ce que démontre en tout cas une enquête de l'ONG Human Rights Watch. Les explications de Nicolas Feldman.
Il y a le témoignage d'Abdoul, 39 ans, rentré de Jordanie l'année dernière, arrêté à un checkpoint puis torturé 4 mois dans un centre de détention. Celui de Zoubeïda, sans nouvelles de son mari interpellé à leur retour du Liban. Sur les 65 cas de réfugiés rentrés en Syrie, Human Rights Watch recense 60 violations des droits humains. Arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures, enlèvements. Le plus souvent le fait des services de renseignement syriens mais aussi des milices proches du régime. Ce qui fait dire à l'auteur du rapport, Nadia Hardman, que loin, bien loin du discours officiel de Damas, la Syrie n'est pas sûre pour ceux qui voudraient rentrer.
Il y a ce narratif du régime qui est de dire « tous les réfugiés peuvent rentrer, ils sont les bienvenus », mais on ne voit aucune mesure qui va dans ce sens. Le régime syrien n'a pas changé. Ceux que j'ai interrogés me disent qu'avoir quitté le pays fait d'eux des suspects, et quand ils rentrent, ils sont vus comme liés à l'opposition. Ça implique soit des détentions arbitraires, soit une vie dans la peur que cela arrive.
Le rapport souligne aussi les difficultés économiques. Une fois en Syrie, beaucoup ont eu du mal à répondre aux besoins les plus élémentaires, note la chercheuse. Sur les 65 cas de retour étudiés par Human Rights Watch, près d'un tiers des Syriens ont depuis fait le chemin inverse et de nouveau quitté leur pays.
13h12, coup d'œil météo pour conclure ce journal pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 20 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 24, Hobart 24, Canberra 20, Sydney 22, à Brisbane il fera 26 degrés, Cairns 33 degrés et Darwin 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, un nouveau pic d'infection au Covid dans le Victoria, alors que l'État se prépare à lever les restrictions de confinement à partir de ce soir à 23h59. On l'a entendu dans le journal, un plaidoyer de culpabilité pour le massacre par arme à feu le plus meurtrier des États-Unis. C'était dans un lycée. Et on l'a vu également en Russie, Union européenne qui décerne un prix, le prix des droits de l'homme, à l'opposant russe Alexei Navalny. Voilà, 13h13, courte pause. Et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la Ligue des Champions, troisième journée de la phase des poules. Dans le groupe G, Lille et Séville ont fait match nul hier 0-0 et Lille reste troisième, pas encore éliminé, mais c'est compliqué. Annie Gasnier est avec Cédric de Oliveira qui était sur place pour RFI au stade Pierre-Mauroy.
Face à une équipe de Séville qui, elle, a eu la domination technique, surtout, fallait s'y attendre en fait. Mm-hmm. Cette équipe de Séville, elle est vraiment très très à l'aise, elle est très difficile à bouger. Et surtout, il y a des joueurs de grande classe, il y avait Souso, il y avait Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, des joueurs qui sont capables de faire tourner ce ballon, en tout cas plus que les Lillois. Rakitic qui est rentré, lui, en seconde période. Mm-hmm. En tout cas, les Lillois, eux, ils ont proposé un peu ce qu'ils proposent depuis le début de la saison, c'est-à-dire d'essayer d'aller vite vers l'avant. Mais il y avait une formidable organisation côté sévillan qui a empêché justement ces transitions. Et finalement, Lille n'a eu qu'une vraie occasion, c'est ce face-à-face de Renato Sanchez avec Yacine Bounou. Sanchez qui a récupéré ce ballon un petit peu par miracle. C'était une mauvaise relance de la part des sévillans, donc c'est même pas une action construite de la part des Lillois. Ce ballon, cette action du Portugais qui a été vraiment la seule principale menace pour les Lillois. Vous parliez de Burak Yılmaz, il s'est beaucoup démené, le Turc, c'est vrai. Ouais. Voilà, il a beaucoup décroché à droite, à gauche. Et finalement, 0-0, ils s'en sortent bien, les Lillois, puisque Séville, ils ont eu plus d'opportunités, même s'il n'y a pas eu de vraies actions, en tout cas d'actions franches. Il y a eu quand même des frappes d'Ocampos, des frappes de Rafa Mir, des opportunités. Je pense que Ivo Gerbich est sans doute le Lillois avec José Fonte qui a fait la plus belle prestation de cette partie. Mais je pense que la frustration, elle vient surtout du côté andalou de pas avoir gagné cette rencontre.
Dans les autres matchs, à noter que le FC Barcelone a battu le Dynamo Kiev 1-0. Le Bayern Munich a écrasé Benfica 4-0. Chelsea s'est imposé 4-0 contre Malmo et Villarreal a battu les Young Boys Bern 4-1. Et Manchester United qui bat l'Atalanta Bergame à 3-2, un but décisif de Ronaldo à la 81e minute pour les Red Devils. Mardi, le Paris Saint-Germain a gagné 3-2 contre Leipzig. Martin Guez était au Parc des Princes pour RFI.
Parisiens qui s'imposent finalement 3-2 dans cette rencontre où ils étaient, il faut l'avouer, bien mal embarqués. Ils avaient pourtant ouvert le score dès la 9e minute, une jolie frappe en pivot, un petit peu de Kylian Mbappé qui a trompé au premier poteau le gardien hongrois de Leipzig, Peter Gulacsi, mais une égalisation ensuite d'André Silva, le portugais pour les Allemands. Les Allemands qui sont pourtant pas vraiment en forme dans cette Ligue des Champions. Ils ont perdu leurs deux premières rencontres. Ils vont passer devant, même les Allemands, en deuxième période. Un super centre d'André Ligno, une super frappe de Nordi Mukiele, l'arrière droit français, l'arrière droit parisien même. Il est né à Montreuil dans l'est de la capitale. On s'est dit à ce moment-là que ça allait être très difficile pour Paris, qui était pressé, qui ne trouvait pas de solution. Et ils se sont remis à leur duo magique, hein. Kylian Mbappé, Lionel Messi, les deux étaient là ce soir, au contraire du Brésilien Neymar. Kylian Mbappé qui a un petit peu tout fait, il marque le premier but. Ensuite, il passe le ballon à Lionel Messi pour l'égalisation de partout. Et il obtient même un pénalty en fin de rencontre, un pénalty transformé d'une panenka par Lionel Messi. Il a même eu lui-même l'occasion de marquer un pénalty, Kylian Mbappé, en toute fin de rencontre. Il l'a raté, mais ça fait quand même 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait une deuxième victoire, ça fait 7 points et ça fait la tête du groupe A pour les Parisiens.
On écoute maintenant la réaction de Kylian Mbappé. Un match difficile selon lui.
La Ligue des Champions, c'est difficile, c'est les meilleures équipes du monde. Leipzig, c'est une bonne équipe. Nous, on était à domicile, on voulait gagner. On l'a fait, on a eu des séquences de jeu où on était installé dans leur camp, où on a réussi à vraiment bien combiner, à être dangereux et à les mettre en difficulté. Après, il y a des périodes dans le match, je pense que c'est la gestion des temps faibles. Peut-être qu'on a eu des temps faibles qui étaient un peu trop faibles, mais je pense pas que c'était de la chance aujourd'hui.
Paris garde la tête du classement dans ce groupe A devant Manchester City qui a écrasé Bruges 5-1. Olivier Pron maintenant pour RFI revient sur les performances des joueurs africains mardi.
35 réalisations en 8 matchs soirée façon feu d'artifice dans l'arène des compétitions de clubs, une Ligue des Champions qui atteint la mi-course dans cette phase de groupe. 6 de ces 35 buts ont été inscrits par des joueurs africains. L'inévitable Mo Salah, bien sûr, a encore une fois été décisif dans la solide victoire de Liverpool sur le terrain de l'Atlético Madrid, 3-2. L'Égyptien a ouvert le score, puis inscrit le troisième but des Reds sur penalty. Entre les deux, c'est le Guinéen Naby Keïta qui s'était illustré d'une superbe demi-volée à mi-hauteur. Autre buteur du continent ce mardi soir, Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien rayonne dans cette Ligue des Champions avec l'Ajax. 3 matchs, 3 victoires pour le club d'Amsterdam. Cette fois 4-0 face à Dortmund. L'international a marqué une fois et passé deux fois de façon décisive. Succès heureux d'un Paris Saint-Germain réaliste à défaut de séduire. 3-2 face au RB Leipzig. Mbappé puis Messi deux fois ont marqué. Paris en tête de sa poule, un point devant Manchester City. qui est allé lui écraser Bruges 5-1 avec un doublé de l'Algérien Riyad Mahrez. Les autres résultats de la soirée, un réveil du Real Madrid au Shakhtar Donetsk, 5-0, 3-1 pour l'Inter Milan face au Sheriff Tiraspol, troisième défaite de rang pour le Milan AC, 1-0 à Porto, enfin net succès du Sporting Portugal au Beşiktaş Istanbul, 4-1.
Foot toujours et l'idée de la Coupe du Monde tous les deux ans, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, essaiera de trouver un consensus lors d'un sommet virtuel qui va réunir les 211 fédérations nationales membres en décembre prochain. Alejandro Valente, RFI.
Sa conférence de presse à l'issue de ce conseil, Gianni Infantino a cherché à minimiser l'importance de la fronde européenne. Aucune décision ne sera imposée si elle ne convient pas à tous, a-t-il promis. Le président de la FIFA a cependant annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire par visioconférence dès le 20 décembre prochain. Il fera tout pour présenter une proposition consensuelle afin de faire évoluer l'organisation et les calendriers des compétitions. Une nécessité, assure-t-il, pour que les jeunes générations tentées aujourd'hui par d'autres distractions que le football puissent continuer à se passionner pour ce sport. Pour Gianni Infantino, le but est qu'une Coupe du Monde puisse avoir lieu chaque année, avec une alternance entre les versions féminines et masculines. Il a martelé également que l'époque où un seul pays pouvait organiser un mondial est désormais révolue et qu'à l'avenir, on ira vers des organisations conjointes entre pays d'une même région.
Et puis en mode tennis, Novak Djokovic qui a de nouveau refusé de révéler s'il avait été vacciné contre le Covid-19, soulignant qu'il s'agissait d'une affaire privée et d'une enquête inappropriée. Il a également révélé qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait défendre son titre à l'Open d'Australie l'année prochaine. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que les joueurs de tennis non vaccinés ne seraient probablement pas autorisés à venir à l'Open d'Australie. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était Gaëtan Roussel, bien entendu, une voix si atypique. Et cette chanson, Une seconde ou une vie entière, ou la vie entière, ça fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre sur Radio SBS en français. 13h25, courte pause et on parle d'économie comme chaque jeudi avec Nicolas Perpich.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
Le débat sur le but de zéro émission nette continue en Australie. Et le Premier ministre, Scott Morrison, a déclaré que ça va créer des milliers d'emplois.
Oui, tout à fait. C'est assez étonnant parce que pour des années et des années, le Parti libéral s'est opposé fortement à ça. À zéro net à lutter très fortement contre le Parti travailliste sur ce débat. Maintenant, le Premier ministre, qui change d'avis et il pense que en fait, ça va créer 5 fois plus de travail et de jobs que si on ne faisait rien du tout. Donc vraiment là, il pousse très fort pour pouvoir aller au meeting de l'ONU. À Glasgow, avec un programme de zéro émission nette avant 2050 pour l'Australie. Voilà, le monsieur Morrison qui essaye aussi bien sûr de convaincre le parti des Nationals avec Barnaby Joyce qui s'oppose à ça, mais c'est important pour la coalition qu'il soit unie sur ce front-là. Mais donc alors voilà, il y a le ministre responsable pour l'énergie, Angus Taylor, qui a dit aux membres du Parti libéral et aux Nationals aussi que ça va créer des milliers de jobs dans le secteur de l'hydrogène, des terres rares, de l'aluminium et même le fer vert, donc le fer qui est créé d'une façon sans avoir d'effet sur le climat. Alors voilà, il y a Monsieur Angus Taylor aussi qui dit qu'il y a une analyse sur l'effet et l'impact non seulement dans les régions, dans le secteur agricole, mais sur le secteur des ressources. Ils disent qu'ils peuvent trouver des façons que ce secteur-là continue à plein fond, mais les Nationals veulent des concessions importantes pour le diesel. Donc, et le secteur aussi demande ça parce qu'il y a beaucoup des grandes machines dans ce secteur qui ont besoin du diesel pour marcher. Ils disent que les batteries électriques, ça ne marche pas pour les énormes machines qu'ils ont besoin d'utiliser. Donc, entre le secteur du Minerals and Energy et aussi les Nationals, c'est sûr qu'il y aura des concessions dans cet endroit-là et des milliards de dollars qui vont être investis dans les régions, dans les secteurs agricoles et ailleurs pour assurer qu'il y a le soutien des Nationals pour cette politique, pour amener à Glasgow. Si c'est vrai ou non qu'il y aura des milliers de jobs qui vont être créés, on verra. Les Nationals sont pas sûr que c'est vraiment vrai, mais là, c'est dans l'avenir, donc on ne peut pas vraiment savoir tout de suite.
Les musiciens, les interprètes sont parmi les plus frappés financièrement par la pandémie, mais il y a un peu d'espoir pour eux à l'avenir.
Oui, on espère parce que c'est vrai que presque immédiatement, les concerts, les tours autour de l'Australie et du monde ont été annulés quand il y a eu la pandémie, les confinements. C'était bien sûr la même chose pour les gens qui travaillaient dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Mais pour les musiciens, vraiment, et tous les gens qui travaillent dans cette industrie, les concerts sont vraiment essentiels parce qu'en fait, ils ne font plus beaucoup d'argent du tout avec la vente des disques et des chansons, parce que il y a les services de streaming comme Spotify qui payent en fait très peu chaque fois qu'on écoute une de leurs chansons, donc ils avaient besoin des concerts pour gagner de l'argent, mais bon, tout d'un coup il n'y en avait plus du tout, et donc c'est estimé que d'habitude il y a 1,4 milliard de dollars qui est dépensé sur le live music, et c'est chuté par 90% pendant la pandémie, et que il y a à peu près 36 000 personnes qui ont perdu leur job, perdu leur travail. Mais bon, maintenant ça va commencer à revenir après très longtemps à Sydney et Melbourne avec les confinements qui se lèvent. Il y a cette nouvel espoir, mais c'est sûr qu'en même temps dans les lieux, dans les bars, etc. Où on va écouter de la musique, ça sera différent, ça sera pas la même chose. Il faudra vérifier qu'on est vacciné, il y aura moins de billets qui pourraient être vendus parce qu'il faut se distancer des autres. Donc, il y a des bars, des lieux où ils vont pouvoir rouvrir, mais avec peut-être seulement 50% ou 40% de leur capacité. Donc, il y en a qui disent que, en fait, financièrement, ça ne vaut pas le coup. Ça va être encore très difficile pour eux, au moins au début. Et puis, petit à petit, quand on arrive à 80-90% de vaccination, ils vont pouvoir rouvrir plus facilement, et en même temps ils ont dit que en attendant ça, ils ont besoin que le gouvernement continue à les soutenir parce qu'ils vont pas pouvoir se remettre vraiment avant peut-être juin de l'année prochaine. Donc ils disent que c'est trop tôt pour le gouvernement fédéral d'arrêter le soutien financier pour ce secteur qui a vraiment été frappé très très dur.
Merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'était bien entendu Arthur H. Vous l'aurez reconnu avec sa voix tellement atypique. Arthur H. et cette nouvelle chanson Nancy qui fait partie d'un nouvel album qui est sur le point de sortir pour Arthur H. Et c'est également une chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. 13h37, courte pause. Et après ça, eh bien, on se pose la question, est-ce vraiment raisonnable d'avoir des conférences de presse sur le Covid tous les jours? Élément de réponse tout de suite après ça.
Écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter de communication. L'un des marqueurs de la pandémie en Australie, c'est que dès qu'il y a un foyer épidémique qui apparaît quelque part, il est accompagné immédiatement ou quasiment de conférences de presse quotidiennes organisées par les différents dirigeants politiques, les dirigeants des États notamment. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce mode de communication et ce mode de communication répété est vraiment la manière la plus efficace de communiquer auprès de la population sur cette pandémie. Et pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, on va retrouver Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Grégory.
Alors, on vous connaît bien à SBS, d'habitude on discute plutôt d'affaires européennes avec vous, mais il se trouve que vous êtes également spécialiste de la communication de crise, que par ailleurs vous avez travaillé avec des personnalités politiques en France et en Australie, et donc ça nous semblait plutôt approprié de parler de ce sujet avec vous. Donc merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Du coup, je vous repose la question. Ces conférences de presse quotidiennes, état par état, pour en gros nous donner chaque jour les dernières informations concernant le nombre de cas, éventuellement le nombre de décès ou les ajustements à la marge sur les restrictions appliquées ici ou là, est-ce que tout simplement c'est un moyen efficace d'informer la population sur cette pandémie?
Merci beaucoup de me recevoir, Grégory. Effectivement, je suis très content de revenir parmi vous et de parler avec SBS de ces problématiques-là. La vraie question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces conférences de presse quasi quotidiennes en Australie, est-ce qu'elles font le job finalement? Et donc, si on se pose cette question, le premier élément, c'est de savoir, mais c'est quoi le job, ce serait quoi la vertu de ces conférences de presse? Pour moi, il y a trois différents items qui font la raison d'être de ces conférences de presse, encore une fois, en temps de crise, hein, en temps d'épidémie. D'abord, le premier élément, Grégory, pour moi, c'est le contrôle. Ce qu'on peut appeler le contrôle, ce que les Anglais, en fait, les Anglo-Saxons, appellent avec, je trouve, un mot plus approprié, de scrutiny. Et donc c'est vraiment ce fait de contrôler l'information par les décideurs politiques. Le deuxième élément, Grégory, pour moi, c'est la question de responsabilité. Alors encore une fois, responsabilité plus comme les Anglo-Saxons l'entendent, c'est-à-dire responsabilité rendre des comptes, hein, c'est ce qu'ils définissent par accountability. Et le troisième élément, c'est la transparence. On est en temps de crise, on est en pleine pandémie, avec des éléments nouveaux, donc il y a un besoin de transparence sur les nouveaux variants, sur le nombre de cas, sur ce qu'est cette maladie, ce que sont les traitements, etc. Donc ça, pour moi, ce sont les trois éléments à quoi servent ces conférences de presse. J'allais dire, par rapport à ces trois éléments, on a la conférence de presse quotidienne, elle fait le job. C'est-à-dire que les médias, en assistant à ces conférences de presse quotidiennes, en posant des questions et par le fait que ces conférences sont retransmises à la télé pour tout à chacun, elles justifient le fait qu'elles existent. Maintenant, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est, ok, en termes de, encore une fois, de contrôle, de responsabilité, de transparence, on voit bien que ça répond à un besoin, mais est-ce qu'en termes de communication et d'absorption de la communication par le citoyen, est-ce que là, ça fait le job aussi? Et sur cet aspect-là, Grégory, moi, je serais plus sceptique et je pense que ça justifie moins le fait d'avoir des conférences de presse quotidiennes.
Alors, je ne devrais pas donner mon avis, ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais en tant que spectateur et témoin de cette épidémie. Et au bout de 4 mois, ces conférences de presse quotidiennes, moi, je n'arrive plus à les suivre. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Et du coup, la question que je me pose, c'est si la parole était plus rare, est-ce qu'on n'y accorderait pas plus d'importance? Parce que je ne pense pas que l'impression que j'ai moi par rapport à ces conférences de presse quotidiennes soit une opinion unique. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je pense que plus personne ne les regarde, en tout cas un nombre beaucoup plus limité. Et donc voilà, je vous repose la question à vous, le communicant. Ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, ne prendre la parole qu'une fois par semaine ou quand on a des choses vraiment importantes à dire, si j'ose dire, un changement majeur sur le déroulé du confinement ou des choses comme ça, plutôt que de parler tous les jours, sachant que certains jours, à part la météo du nombre de cas, il n'y a pas grand-chose à annoncer, quoi.
Alors, je crois encore une fois, Grégory, sur cet aspect-là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que pour les journalistes, c'est-à-dire que pour ceux qui analysent l'information, la restituent et permettent aux citoyens d'être informés, je pense que le fait d'avoir un contact quotidien avec le décideur politique, mais d'ailleurs on va y revenir dans un instant parce que la question c'est de savoir aussi que c'est au décideur de politique de mener ces conférences de presse, mais je crois que du point de vue de l'exercice journalistique et du rôle du journaliste dans nos sociétés modernes, je crois que c'est important qu'il y ait cet accès à l'information. Mais là où je vous rejoins, c'est que effectivement pour le citoyen lambda qui en fait va être beaucoup plus touché en termes de nombre, parce qu'il y a plus de citoyens que de journalistes, effectivement là l'exercice de la conférence de presse quotidienne perd de sa raison d'être. Au début, ce qui se passait, c'est que il y avait ce qu'on appelle en communication un effet de feuilletonnage même, c'est-à-dire que comme on avait un message important à dire en temps de Covid, de pandémie, de message de santé publique, le fait de revenir chaque jour, le fait de revenir à une heure précise, le fait d'avoir un ou deux interlocuteurs identifiés permettait en fait de créer un canal de communication et de vraiment maîtriser le message nouveau pour tout citoyen qu'il était important de retenir. Donc ça, c'était l'effet du feuilleton au début. Là où je pense que personne n'a anticipé que ça allait durer 18 mois, exemple de Melbourne et de ses conférences de presse quasi quotidiennes, c'est que l'effet feuilleton, il peut avoir une efficacité quelques semaines, quelques mois, mais vous l'avez bien dit, au bout de 18 mois, en fait, comme tout feuilleton, qu'il soit politique ou autre, on s'en lasse, et c'est là que ça perd en efficacité, et où je vous rejoins, effectivement, la rareté de la parole politique, elle ferait plus sens sur la longueur. L'autre aussi aspect, Grégory, pour moi, qui est très important, c'est que moi, j'aime bien reprendre l'ancien slogan de mai 68, « D'où tu parles, camarade ?»« D'où parles-tu, camarade ?» Et en fait, c'est là où on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas en Australie, c'est-à-dire qu'on avait des hommes politiques qui faisaient en fait le boulot d'experts. Et on avait des experts qui étaient relégués à commenter ce que disait l'homme politique. Je m'explique. C'est au bout d'un moment, quand on a juste une mise à jour du nombre de chiffres, une mise à jour des courbes, une mise à jour en fait, j'allais dire, très administrative, ce n'était pas forcément à l'homme politique, ce n'était pas forcément au premier du Victoria de faire cette mise à jour. Parce que c'est pas là où on l'attend, c'est pas là où on aimerait le voir parler. On aimerait que l'homme politique, lui, il trace des perspectives et qu'il mette en musique des données factuelles. Alors que pour le coup, l'expert, le chief medical officer, lui, on l'attend effectivement pour qu'il décrive les données, les analyses qu'il a reçues sans en faire une interprétation politique. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a une grande erreur, notamment dans le Victoria de la part du premier Daniel Andrews, c'est qu'au bout d'un moment, sa parole n'avait plus aucun poids politique parce qu'il se contentait en fait de faire le travail d'un chief medical officer, d'un expert et pas d'un leader politique avec une vision capable de donner, de tracer une feuille de route, de donner un espoir pour sa population, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche principalement dans le Victoria.
La deuxième question, alors Est-ce que ça, c'est lié au fait que l'Australie, jusqu'à très récemment, suivait une stratégie zéro Covid ? C'est que dans ses conférences de presse et dans toute la communication gouvernementale au sens large, le maître étalon de la pandémie, c'est le nombre de cas quotidiens. Et ça aussi, ça m'interroge parce que, par exemple, en France, au début, on communiquait également autour de ce chiffre, mais ça a été depuis complètement abandonné. Il est encore possible de le trouver, mais s'il y a communication de la part des autorités sur l'avancée de la pandémie, ça va être plutôt sur le taux d'incidence ou le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en unité de soins intensifs. Mais le nombre de cas en lui-même n'est plus du tout utilisé pour parler de cette pandémie. Pourquoi est-ce qu'en Australie, on continue à le faire? Et est-ce que, toujours d'un point de vue de communication, hein, ni vous ni moi n'êtes scientifique ou médecin, est-ce que c'est vraiment le chiffre le plus important à retenir?
Alors là, Véronique, je pense que vous touchez un point très important. C'est que, en fait, l'Australie avait pris dès le début une décision politique, pour le coup, mais traduite en santé publique, d'éradiquer le Covid, de faire une stratégie zéro cas. Et donc, en fait, on comprenait au début que l'exercice de la conférence de presse quotidienne, c'était pour montrer l'évolution et la mise en œuvre de cette stratégie et pour donner espoir à la population qu'on est en train d'y arriver. C'est pour ça qu'au début, ça paraissait d'ailleurs assez... fantasmagorique pour des amis français, c'était que des conférences de presse étaient organisées où on disait « Ah, aujourd'hui, les chiffres ont augmenté de 50%, on est passé de 6 cas à 9 cas. » Parce qu'on était vraiment dans cet objectif-là. Donc, il y avait une cohérence finalement avec l'objet de la conférence de presse. Ce qui s'est passé cet été européen, donc au mois de juillet-août ici en Australie, c'est qu'on est passé finalement, on a abandonné cette stratégie zéro Covid, on pourra revenir sur ce point-là, mais on a abandonné parce que c'est pas possible, parce que l'accélération de la vaccination fait que on pourra réouvrir quand même avec quelques cas de Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que à Melbourne, et c'est là où c'est aussi un choix politique, et on va certainement y revenir, mais à Melbourne, on a continué avec ces conférences de presse quotidiennes, alors que dès la mi-septembre, alors que les chiffres étaient en train d'exploser en termes de nombre de cas, l'ancienne première du New South Wales a décidé d'arrêter ses exercices de conférences de presse quotidiennes. Et je crois que c'était un signal assez fort parce que c'était montré que même au cœur de la pandémie, au moment où les cas encore explosaient à Sydney, faire une conférence de presse quotidienne pour commenter ces chiffres-là n'était plus en adéquation avec les objectifs globaux pour lutter contre la pandémie. Et donc, vous voyez, c'est là pour répondre à votre question que en fait, la conférence de presse quotidienne, elle a aussi un sens si son objet est aligné avec ce qu'on vise. Et je crois que c'est là aussi encore une grande différence entre le Victoria et le New South Wales, où dans le Victoria, on continue encore à commenter finalement des chiffres, comme vous l'avez mentionné, qui n'ont plus tellement de sens en termes même de stratégie globale par rapport à la gestion de la pandémie.
Alors, c'est vrai, effectivement, Gladys Bériger-Client, peu de temps avant qu'elle finalement soit contrainte de démissionner, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pandémie d'ailleurs, mais elle avait fait part de ce souhait d'arrêter l'exercice des conférences de presse quotidiennes, et ça avait été extrêmement mal reçu, alors que peut-être qu'elle avait raison au final. Pour continuer à être entendue, il fallait arrêter de parler en fait.
Je pense qu'en tout cas, elle a eu raison en termes de morale des troupes. Le fait pour les citoyens de ne plus, encore une fois, vivre dans ce feuilleton où on attend tous les jours la fin de matinée pour savoir quels vont être les sujets de la conférence de presse, c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour les habitants de Sydney et du New South Wales. L'autre chose aussi, c'est que un des risques, c'est qu'au bout d'un moment, l'homme politique, s'il n'a plus rien à dire, il est tenté en fait de transformer en tribune politique cette conférence de presse quotidienne. C'est aussi ce qui se passe dans le Victoria, c'est-à-dire que vous avez les partisans de Daniel Andrews qui trouvent que finalement c'est quelqu'un qui a de la force, de la détermination, de l'engagement, mais finalement qui vont au-delà de cette histoire de gestion de la pandémie. Et vous avez d'autres personnes qui en fait critiquent l'utilisation de cette conférence de presse quotidienne pour en faire une tribune politique pour traiter d'autres sujets. Et donc c'est aussi le risque en termes de santé publique et de communication de crise, qui sont quand même des moments avec beaucoup de tensions, des moments aussi nouveaux, hein, si on prend l'exemple du Covid-19, où vous avez finalement le message de santé publique qui va être moins entendu que, j'allais dire, le classique jeu politique lors d'un exercice oral et, ou d'une conférence de presse. Et je crois que c'est aussi un risque qu'il faut pointer avec ces exercices de conférence de presse quotidienne, c'est qu'on peut passer à côté de mauvaises interprétations. Et on l'a vu, hein, par exemple, dans le Victoria, on avait eu l'exemple de, du chief health officer, pardon, Brett Sutton, qui avait expliqué à un moment que le variant Delta rendait les enfants encore plus malades, qui avait été après démenti. Et c'est aussi le problème de ces exercices de conférences de presse quotidiennes, c'est que si la confiance est rompue à un moment, et quand vous êtes quotidiennement devant la presse, les journalistes, ça peut arriver de faire des erreurs, même de manière non
intentionnelle. On augmente mathématiquement les chances de dire des bêtises, en tout cas.
Exactement. Ouais. Et bien, le problème, c'est un problème réputationnel qui est encore plus vrai, plus exacerbé en communication de crise. C'est que la réputation, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire. Par contre, une fois que le lien est rompu, que la confiance est un petit peu érodée, on met beaucoup plus de temps à la recouvrer. Eh ben, c'est aussi le risque de faire des conférences de presse quotidiennes sur des sujets de santé publique, c'est que si vous dites des choses qui peuvent s'avérer fausses parce qu'il y a une erreur, parce que vous avez pris une étude finalement qui se trouve et pas si scientifique que ça, parce que vous avez parlé de chiffres, etc., après vous pouvez toujours courir après. Et le problème, c'est pas tellement qu'on ne croit plus le chief health officer, le problème c'est que quand vous avez un objectif de santé publique, encore une fois, de vacciner votre population à 70%, puis après 80% de double dose avant de tout réouvrir. Vous avez des anti-vax que vous, de toute façon, ne convertirez jamais, mais vous avez aussi des hésitants qui vont se servir de toutes ces aspérités, de toutes ces erreurs qui ont été faites dans l'exercice de conférence de presse quotidienne pour vous dire pourquoi est-ce que je croirais là l'homme politique ou le chief health officer alors qu'on s'est trompé sur l'analyse du variant Delta, alors qu'on s'est trompé sur... telle information médicale. Donc c'est aussi un risque, j'allais dire, au-delà du risque politique, c'est même un risque de santé publique que peuvent faire courir ces exercices de conférences de presse quotidiennes.
Très bien, merci beaucoup Nathanaël pour ces éléments d'analyse. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup Grégory.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre Facebook ou sur Twitter, ce que vous pensez sur les conférences de presse, donc sur le Covid. Allez, direction Paris maintenant pour conclure cette émission. La meilleure baguette de Paris s'achète dorénavant au 54 rue de Reuilly. C'est un jury qui était composé de professionnels et de parisiens, donc tous passionnés de pain en tout cas. Eh bien, ils ont décerné ce prix à la meilleure baguette tradition à Makram Akrout, un Tunisien arrivé en France il y a 19 ans. Reportage.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour madame. La queue, elle n'est pas trop longue?
Non, ça va. Hein.
C'est souvent comme ça ou c'est depuis quelques temps?
Non, ça dépend des heures. En général, aux heures de repas, il y a du monde.
Vous êtes habitué à...
Oui, à la boulangerie, oui. Ouais. Leur pain, il est très bon.
Midi et demi devant la boulangerie où est fabriquée la meilleure baguette de Paris édition 2021, les clients commencent à affluer. Il y a les habitués, mais aussi ceux qui viennent pour la première fois, comme ce groupe d'amis venus tout spécialement de la banlieue parisienne.
Bah, on est venu parce que justement...
On a lu un article, en fait. On est venu essayer la baguette.
On l'a vu à la télé, moi je l'ai vu à la télé. Ouais. Alors, je veux goûter ce que va manger Monsieur Macron et Madame Macron, je veux goûter leur pain. Donc voilà.
Alors, deux baguettes, quatre baguettes, tradition ?
Oui. Devant le comptoir, c'est enfin le tour de cette sexagénaire antillaise en visite chez sa fille à Paris.
C'est la première fois. J'en ai pris quatre pour mes petits-enfants. Quand j'irai au pays, je lui dirai que j'ai mangé la même baguette que Macron.
En effet, pendant un an, le lauréat de la meilleure baguette 2021 fournira du pain au palais de l'Élysée. Un honneur et une fierté pour Makram Akrout, Tunisien de 42 ans et le regagnant de la compétition.
C'est la récolte des années de travail, des années d'expérience. Je suis très fier de ça.
Ouais.
Vous êtes d'origine tunisienne. Oui. Quand vous êtes arrivé ici, vous étiez sans papier. Vous vous êtes battu pour vous en sortir. C'est un exemple que vous voulez véhiculer?
Bien sûr. Je suis arrivé ici à l'âge de 23 ans et j'ai choisi le chemin de travailler tranquille. Je travaillais comme un aide-boulanger, comme ça, un petit peu à droite à gauche. Après, j'ai commencé à évoluer et petit à petit, voilà, je prends la responsabilité de poste tout seul et j'ai commencé à participer au concours. Je n'ai pas arrêté, voilà, jusqu'à que je sois classé une fois, deux fois et là, je suis le premier.
Et ce fils de boulanger n'est pas le premier Tunisien à remporter cette compétition, comme le rappelle cette Parisienne qui a fait le déplacement avec sa mère pour acheter la meilleure baguette.
Elle nous tient à cœur à la fois parce qu'on aime le pain, que maman est d'origine tunisienne. Du coup, c'est une fierté de savoir qu'il y a pas mal de Tunisiens qui sont primés sur le pain. Et si je compte de mémoire à peu près sur les 5 dernières années, les boulangers qui ont été primés, il y a à peu près au moins, allez, on va dire au minimum 3 voire 4 boulangers sur 5 qui sont d'origine tunisienne.
Emblème de la France, qui a d'ailleurs demandé son inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO, la baguette n'en est pas pour autant une spécialité franco-française. En effet, la compétition de la meilleure baguette a été remportée à plusieurs reprises par des boulangers d'origine étrangère. Exemple, le Sénégalais Djibril Bodjan a été primé à 2 reprises en 2010 et en 2015.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Suis la flèche.
Et c'était bien sûr Hubert Félix Stiefen pour conclure ce programme en français sur Radio SBS, les grands titres. Hein, grand titre, pic d'infection dans le Victoria sur le Covid, alors que l'État qui se prépare à se lever les restrictions de confinement ce soir. Et en Russie, l'Union européenne qui décerne le prix des droits de l'homme à l'opposant Alexei Navalny. Voilà, c'est la fin de notre programme sur Radio SBS. Je vous souhaite un bon après-midi à tous, un bon appétit si vous êtes toujours à table. Prochain rendez-vous avec nous et moi-même, ce sera samedi à 13h et bien entendu Jean-Noël dimanche à 13h également. Rendez-vous donc sur notre site internet sbs.com.au/french. En attendant, bon après-midi à tous.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.